En France, les menaces sur la liberté d'informer nous préoccupent.
L'autre soir, j'allume la télé comme un idiot. Pas de bol, c'était l'heure des infos.
À Vincent Bolloré, oui, je lui demanderais de rétablir le vrai journalisme.
Au nom de la mauvaise foi, de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire, je te baptise journaliste.
Burns possède tous les médias. Il faut que je dénonce ça avant qu'il soit trop tard.
Ah, vous les aimez pas, les journalistes.
Welcome to the world of the media.
Chaque jour, les journalistes nous informent, décryptent l'actualité et détricotent le vrai du faux.
Mais en coulisses, la profession trébuche et se heurte à de nombreux défis.
Le journalisme est un métier passion. Que se cache-t-il derrière cette formule attrayante?
À l'heure des réseaux sociaux et des fake news, comment s'informer de manière fiable?
Que faire quand la loi ne suffit plus à protéger ceux qui garantissent notre liberté de penser?
Entre pression, menaces et intimidation, comment les journalistes bretons enquêtent-ils?
Les médias indépendants trouvent-ils leur place dans un milieu médiatique sous forte pression?
D'habitude, ce sont les journalistes qui posent des questions.
Cette fois, nous sommes allés interroger le système de l'intérieur.
En quête de sens, une série documentaire en 5 épisodes réalisée par les étudiantes et étudiants du Master de Journalisme de Sciences Po Rennes.
Il est 21h et à Champy, près de Rennes, les rotatifs commencent tout juste à tourner. L'objectif ? Produire le journal qui se trouvera peut-être sur votre table, celle de vos parents ou même de vos grands-parents demain matin.
Premier quotidien français, avec 625 000 exemplaires diffusés chaque jour, Ouest France est l'un des 51 titres de ce que l'on appelle la presse quotidienne régionale, la PQR. Ce terme désigne l'ensemble des journaux diffusés à l'échelle d'une région ou d'un département. Elle est lue chaque mois par 43 millions de personnes sur papier comme sur internet et emploie un tiers des effectifs de la presse écrite.
La presse quotidienne régionale est donc une machine bien rodée. Mais un grain de sable se glisse peut-être dans cette mécanique implacable. Les journalistes d'investigation, ceux dont le rôle est d'enquêter, d'aller chercher les sujets qui fâchent, les non-dits, les informations qu'on tait ou dissimule.
Entre pression, menaces, intimidation, est-il possible d'enquêter à l'échelle d'une région, d'un département, d'une commune?
Les journalistes de PQR ont-ils plus de difficultés que ceux de la presse nationale dans l'exercice de leur métier?
Comment protéger les journalistes d'investigation au niveau local?
Ces questions, cela fait plusieurs mois que nous nous les posons. Et pour y répondre, nous sommes allés à la rencontre de ceux qui, chaque jour, se confrontent au terrain pour exercer leur métier.
Nous sommes Agathe Alabouvette et Romain Blanchard. Vous écoutez Info Locale, le poids de la plume, troisième épisode de la série Enquête de sens sur Canal B.
En plus de son poids économique, la presse quotidienne régionale a un poids symbolique. Selon le chercheur Franck Bousquet, co-auteur d'un ouvrage intitulé « La presse quotidienne régionale », les journaux de PQR suscitent chez leurs lecteurs un sentiment d'appartenance à un territoire. Par rapport à ses confrères de la presse nationale, le journaliste de presse quotidienne régionale entretient une proximité avec les habitants du territoire sur lequel il travaille. Facilement identifié, il peut créer un lien de confiance avec ses sources et son public.
Les journalistes locaux, en fait, ont un peu la même position, alors toutes choses étant égales par ailleurs, hein, mais que les élus locaux. C'est-à-dire qu'il y a une défiance forte pour les journalistes en France, et on le sait, il y a moins de défiance pour les journalistes qu'on connaît, pour les journalistes qu'on croise, pour les journalistes qu'on voit. Et donc, normalement, les journalistes locaux, ce sont des personnes qu'on croise, qu'on voit, qui sont dans les événements, qui avec qui on peut boire un café. Donc, voilà, il y a une proximité qui leur est bénéfique du point de vue des relations avec leur public. Il n'y a pas le même rejet que celui qu'on peut avoir avec les journalistes nationaux.
Cette proximité, Erwan Chartier la connaît bien. Il est rédacteur en chef du POER, un hebdomadaire basé à Carhaix, dans le Finistère. Sa zone de diffusion, très rurale, s'étend sur les Côtes d'Armor, le Finistère et le Morbihan. Pour lui, côtoyer de près ceux qui font vivre un territoire, c'est un avantage dans le travail du journaliste.
Ouais, parce qu'on est vraiment au contact du lecteur, des gens, des élus. Il y a des réalités qu'on comprend. C'est super formateur de faire des conseils municipaux, des conseils communautaires. Au-delà des jeux politiques, on voit comment ça se passe. On voit aussi qu'il y a plein de choses aussi qui se passent avec la technostructure ou avec la préfecture qui sont plus décidées par les élus. C'est des choses très concrètes qui sont intéressantes et qui... Voilà quoi, l'info locale, souvent, elle est très générale, en fait, et on, on apprend plein de trucs. Moi, j'ai la chance vraiment d'être dans un territoire où ça, on a eu le seul déplacement de Macron pratiquement pour la présidentielle. C'est super drôle, un voyage présidentiel, c'est la préparation. Quand on commence à bosser dessus, la préparation, qu'on arrive à avoir les infos, parce qu'il y a plein de trucs cachés. Et ça, on l'a en local. Les journalistes parisiens aussi, hein, mais ils sont dans le bus, ils arrivent en avion. Eux, ils sont super bons dans l'équipe. Ouais, on a les infos du staff, parce qu'on finit par connaître les conseillers, puis les machins, puis on a plein de off. Mais des fois, au niveau local, on a aussi un regard qui est pas mal, qui est assez intéressant, quoi.
Par sa proximité avec ses sources, le journaliste local serait-il mieux armé pour proposer une information de qualité ? En réalité, ce n'est pas si simple. Car le journaliste a besoin de ses sources pour obtenir l'information. Il est donc en permanence sur un fil, tiraillé entre son désir de la plus grande objectivité possible et la nécessité de ne pas se mettre ses informateurs à dos. Erwan Chartier témoigne de cet équilibre délicat dans les relations avec les élus locaux, où la confiance peut laisser la place au conflit.
Après, c'est des rapports humains, quoi. On vit au même endroit, on prend le café au même endroit. C'est un truc d'équilibre qui est jamais facile. Et je donne pas de leçons et je prends aussi mes torts. Mais en plus, les élus locaux souvent ont pas l'habitude à ce qu'on fasse poil à gratter ou qu'ils aiment bien contrôler l'information. Donc c'est rapidement, on passe rapidement à l'engueulade physique. Ça passe. Hein. Ça passe. Mais effectivement, c'est pas facile. Le Poer a des rapports très compliqués avec Christian Troidac, qui est le fondateur du journal, qui est le maire aussi. Il y a eu des périodes où le Poer n'était plus invité toutes les invitations. Il n'y a plus d'invitations de la mairie de Carré, quoi, pendant plusieurs mois. Quoi, ça fait un peu bizarre. Ça peut arriver. Après ça revient. Et puis, c'est aussi des rapports humains. C'est pas toujours théorisable, les choses. Le tout, c'est d'être le plus honnête possible et de dire les choses et de dire même quand il y a quand même des soucis.
Être honnête et dire les choses, même quand elles ne vont pas dans le sens de son interlocuteur. Cela semble être la base du travail journalistique. Mais loin d'être simple quand ceux que l'on critique sont aussi ceux qui rémunèrent. Car comme l'explique Franck Bousquet, la PQR est dépendante des collectivités locales pour sa survie économique.
Proportionnellement, elle perd plus de lecteurs que ce qu'elle ne perd d'annonces publicitaires. Ce qui veut dire qu'elle est de plus en plus dépendante des annonces publicitaires et qu'elle est de plus en plus dépendante de ses partenariats avec les acteurs locaux et en particulier avec les collectivités territoriales qui sont des acteurs qui aujourd'hui sont extrêmement importants pour l'organisation d'événements qui ont trait aux partenaires économiques. Donc on a une presse qui est globalement aujourd'hui plus dépendante des grands acteurs du territoire que ce qu'elle était il y a ne serait-ce que 15 ans.
Un problème d'autant plus important que les titres de presse quotidienne régionale sont souvent en situation de quasi-monopole sur leur territoire. 8 groupes se partagent les 51 journaux de PQR diffusés en France. Peu de concurrence, donc moins d'incitation à aller chercher l'info qui permettrait au journal de se démarquer.
Un acteur, quand il est tout seul sur un territoire, il est plutôt dans une politique de co-gestion avec les pouvoirs du territoire que dans une politique où il va essayer de titiller les pouvoirs en place, surtout qu'il ne va pas y être forcé parce que d'autres acteurs vont commencer à le faire. Donc l'investigation, c'est aussi une question d'émulation. Hein. Si personne ne vous pousse à le faire, si personne n'occupe le créneau, ça coûte de l'argent et ça ne vous rapporte pas grand-chose par rapport aux sources de revenus qui sont les leurs, c'est-à-dire à partir du moment où ce n'est plus le lecteur leur principale source de revenus, ce sont les autres acteurs leur principale source de revenus, donc ils n'ont aucun intérêt à animer l'espace public. Donc ça reboucle un peu ce que je vous disais à l'ouverture, c'est-à-dire que ce ne sont pas des acteurs qui animent véritablement l'espace public local et ça pose un problème démocratique. C'est-à-dire que on pousse depuis 1983 à des politiques de décentralisation qui donnent à raison, me semble-t-il, des pouvoirs supplémentaires aux collectivités territoriales et qui les chargent de missions qui sont des missions importantes. Mais finalement, il n'y a pas de presse qui soit véritablement, qui fasse l'équilibre et qui serve de watchdog, comme on dit, de chien de garde à ce que font ces acteurs-là. parce que la PQR, qui est l'acteur principal, a complètement déserté ce rôle-là.
Vous êtes sur Canal B. Entre devoir d'informer, intérêt économique et pression politique, être journaliste de presse quotidienne régionale, ce n'est donc pas aussi simple qu'il n'y paraît.
Pour en parler, on a voulu prendre la route. Rouler vers l'ouest, parcourir la Bretagne. Une question en tête. Qu'en est-il pour les journalistes bretons ? Avec deux grands quotidiens régionaux, le Télégramme et Ouest France, et un maillage de radios associatives, la région semble, plus qu'ailleurs, résister à une perte de dynamisme de l'info locale. Bonne élève, la Bretagne.
Mathilde Munoz, le 5-7.
Il est 6h20, comment protéger la liberté d'informer ? On se pose la question ce lundi matin, 3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse. Bonjour Morgane Large.
Bonjour Mathilde Munoz.
Vous êtes journaliste à la radio Crèze-Brèze, installée dans les Côtes d'Armor. Vous travaillez essentiellement sur l'agro-industrie bretonne, une puissante filière que vous avez souvent égratignée dans vos enquêtes. Peut-être est-ce pour cela que vous subissez des pressions.
Le 24 mars 2023,
cette intimidation est allée.
Morgane Large est à nouveau victime d'un acte de sabotage. Elle retrouve à nouveau une roue de sa voiture déboulonnée. Porte plainte, à nouveau. Nous l'avons contactée par l'intermédiaire de radio Crèze-Brèze, RKB. La radio où elle travaille, notre demande d'interview est restée sans réponse. Avant Morgane Large, il y a eu Inès Léraud. Elle aussi s'est risquée à enquêter sur les dérives de l'industrie agroalimentaire bretonne. À partir de 2015, elle s'est installée dans les Côtes d'Armor et a enquêté sur la responsabilité des industries agroalimentaires dans la prolifération des algues vertes. De ce travail, elle en tira une bande dessinée, Algues vertes, l'histoire interdite. La maison d'édition qui devait éditer la bande dessinée en breton a décommandé. Inès Léraud s'est vue intenter deux procès pour diffamation. Le grossiste breton qui l'attaquait abandonnera la poursuite à quelques jours de l'audience. La route est-elle sûre pour les journalistes qui travaillent en Bretagne ? Le long de la nationale, on pourrait presque s'amuser à suivre le cycle d'un produit qui entre dans le circuit de l'agroalimentaire breton. Aux champs de maïs, d'échalotes ou de choux-fleurs succèdent cathédrale porcine, silos à grains et usines de transformation. La Bretagne est le premier espace agricole français. 64% de son territoire est consacré à l'agriculture. Elle produit chaque année de quoi nourrir 22 millions de personnes. Fils de paysan, Nicolas Legendre a grandi en Ille-et-Vilaine. Il est devenu journaliste. Pour le quotidien national Le Monde, il a sillonné les routes de la région pendant 7 ans en tant que correspondant. Il s'est spécialisé sur les questions agricoles. Après 3 ans d'enquête, il a publié en avril dernier un livre, Silence dans les champs, déjà récompensé par le prix Albert Londres du livre 2023.
En fait, quand on est journaliste en Bretagne, la question agricole et la question agroalimentaire, les deux allant ensemble, sont tout simplement inévitables, en tout cas quand on est journaliste généraliste, parce que ça représente 20% des emplois, c'est un secteur majeur de l'économie bretonne. Donc en fait, j'ai pas forcément décidé de travailler sur l'agriculture, c'est l'agriculture qui s'est imposée à moi. Après, moi je suis fils de paysan aussi, breton, donc c'est des sujets que je connais un peu et qui me tiennent à cœur.
Dans Silence dans les champs, Nicolas Legendre montre que le système agro-industriel est protégé par les pouvoirs politiques et économiques. L'une des armes de ce système, c'est la culture du silence.
En fait, il y a beaucoup de gens qui ont peur, dans le monde agricole et dans le monde agroalimentaire, qui ont peur de parler à visage découvert. Ils ont peur pour leur ferme, ils ont peur qu'on leur coupe l'accès au financement, par exemple. Ils ont peur de ne pas avoir accès au foncier, parce qu'il peut y avoir des représailles. Et puis, on a une culture du silence. On a une culture aussi de la violence, certaines formes de violence, dans le monde agro-industriel, qui fait que les gens n'osent pas dire tout haut ce qu'ils pensent tout bas. Cette culture du silence, forcément, elle impacte un peu le travail des journalistes. Déjà parce que du fait de cette omerta et du fait de la complexité des sujets, de la multiplicité des acteurs, entreprises, individus, coopératives, banques, institutions, c'est un monde qui est difficile à comprendre, à appréhender dans sa totalité. Le système agro-industriel, c'est quelque chose de vraiment complexe. Or, nous, journalistes, bien souvent, on est pris dans le flux du quotidien. Et on a malheureusement pas toujours la possibilité de prendre un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois pour voilà, essayer de rassembler toutes les pièces du puzzle et de faire des liens entre les choses. On n'a pas ce luxe-là, malheureusement, bien souvent.
L'autre arme du système agro-industriel breton, c'est l'intimidation. En mai 2023, Nicolas Legendre est invité dans l'émission Un dimanche en politique sur la chaîne France 3 Bretagne. Face à lui, Hervé Le Prince, directeur de l'agence News Sense et cofondateur de l'association Agriculteurs de Bretagne. Ce défenseur du modèle productiviste utilise une méthode surprenante pour décrédibiliser le travail de Nicolas Legendre. Hervé Le Prince accuse Nicolas Legendre d'enfiler des perles. Pour filer la métaphore jusqu'au bout, il est venu avec une boîte de perles et du fil en plateau.
3200 salariés et d'agriculteurs ici, il faudrait à peu près 100 sacs comme celui-ci pour représenter l'entièreté du monde agricole et agroalimentaire breton. Vous en avez pris 300. Déjà, je pense que là, la multiplicité des couleurs, des perles au sens propre, au figuré, des petites histoires de fermes, d'emplois, de salariés, de vie, de famille, vous les avez déjà sélectionnées. On voit une couleur apparaître.
Montrez face caméra pour voir la proportion, votre démonstration.
Voilà. 320 000, 100 paquets, 300 retenus, 7 ans de travail et un petit collier de 28 perles, puisque c'est les 28 témoignages, trentaine, qui apparaissent là.
Il y en a 300. Il y en a 300 témoignages.
300, mais 28 ici, relatés.
Alors, la réponse.
Pour moi, il me semble qu'il y a un petit biais quand même que je retrouve dans d'autres systèmes d'interview.
Donc on peut effectivement enfiler des perles, on peut aussi regarder les statistiques globales. Voilà. Regardons les statistiques globales. C'est entre 2010 et 2020, on a perdu 25% de fermes en Bretagne. C'est un processus qui est mondial. On a la profession qui est la plus suicidaire. C'est attendu, c'est-à-dire que moi je m'y suis préparé à ce genre de choses pendant des mois, avant la sortie du livre, pour pouvoir simplement être solide sur mes témoignages, sur les éléments dont je disposais, pour pouvoir répondre et défendre mon enquête, en fait, mon travail. Rencontre avec donc le lobbyiste Hervé Le Prince, ça se fait dans un cadre avec des règles, sur un plateau de télévision, France 3. Donc il y a certes de sa part une volonté de discréditer mon travail, mais on n'est pas, à mon sens, sous la ceinture. Voilà, ça se fait dans un cadre qui est celui de la démocratie et du débat en démocratie. En revanche, quand l'association Les Omnivores, qui est dirigée par Hervé Le Prince, donc une association un peu satellite du complexe agro-industriel breton, qui n'a pas vocation à être rendue publique et qui est diffusée en interne auprès de dirigeants de l'agro-industrie bretonne, juste après la sortie des enquêtes dans Le Monde, là on a affaire à autre chose. On n'est plus dans le domaine public, et parce que le contenu de la note, donc c'est quand même 6 pages en PDF, c'est du dénigrement à mon égard, et puis aussi à l'égard d'autres journalistes d'investigation breton. C'est une tentative de discréditation, et puis c'est aussi quasiment presque de la théorie du complot. Hein. Quand on lit vraiment le contenu, il est quand même indiqué que moi et d'autres, nous voudrions la mort de l'agriculture bretonne.
Les journalistes qui enquêtent sur le système agro-industriel breton ont donc la vie dure. Mais ils ne sont pas les seuls. Récemment, une nouvelle menace a fait son apparition, l'extrême droite.
Vous êtes toujours sur Canal B. Vous écoutez le troisième épisode d'Enquête de Sens, une série documentaire réalisée par les étudiantes et les étudiants du Master de Journalisme de Sciences Po Rennes. Lifting the mask from a local
clown, feeling. À notre grande surprise, le maire n'a refusé de nous recevoir. Il a préféré être à 500 mètres de là.
17 septembre 2022. Calac, un petit bourg de 2000 habitants dans les Côtes d'Armor, est secoué par une agitation inhabituelle. Durant l'été, une nouvelle a mis le feu aux poudres. Une fondation caritative souhaite implanter un projet d'accueil de réfugiés dans la commune. Un comité d'opposants locaux se forme et organise une première manifestation. Une autre suivra en novembre 2022. À chaque fois, elle rassemble plusieurs centaines de personnes, venues de Calac bien sûr, mais aussi des départements voisins, et même du Maine-et-Loire et de Vendée. Sur le terrain, Erwan Chartier, rédacteur en chef du Pouer Hebdo, l'hebdomadaire local, est en première ligne pour couvrir les faits. Nous l'avons rencontré à la cafétéria de l'université de Rennes 2, où il est également enseignant. Plus d'un an après, les souvenirs sont encore vifs.
Début septembre, il y a un truc qu'on n'a pas vu, c'est l'université d'été de Reconquête. Après, on a eu plus de... Donc Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, où un des sujets, c'était Calac. Où ce parti, pour exister, parce qu'il s'était pris un gadin aux élections en 2022, aux législatives, aucun élu, pour exister, a commencé à théoriser le fait de faire de l'agitation, de l'agit-pop, de l'agit-prop un peu partout en France, dès qu'il y aurait des projets d'accueil de réfugiés. Donc dans des thématiques d'extrême et d'ultra-droite classiques. Et entre-temps, ce qu'on n'était pas aperçu vraiment sur le coup, mais c'est pendant l'été, les gens du comité des opposants ont été remplacés par des cadres de l'ultra-droite. Le comité a évolué d'ailleurs. Et donc c'est des cadres vraiment de reconquête à l'époque qui ont pris le pouvoir dans ce comité d'opposants pour mener la lutte. Et on apprenait aussi que les élus faisaient l'objet de menaces et de menaces de mort. Alors on n'avait rien de précis, c'était dur de les faire parler parce que... dans des coins où les gens sont plutôt pudiques et le parlait pas, mais on avait appris que, oui, qu'il y avait quand même des menaces de mort assez graves. On apprend aussi que le personnel de la mairie de Callac est harcelé au téléphone. La DGS de Callac s'est même mis en arrêt maladie après la première manif de septembre à force de recevoir des insultes par téléphone.
Harcèlement, diffamation de la part de médias d'extrême droite et même menaces de mort, la surenchère de l'intimidation ne fait que commencer. Erwan Chartier et ses collègues vont en faire les frais après la deuxième manifestation.
Quelques jours après, on reçoit par la poste un article d'un site d'extrême droite, Résistance Républicaine, particulièrement injurieux sur le POER, donc signé par Bernard Germain, qui était alors référent Reconquête pour l'Agnon Paimpol. J'en discute avec mon avocat, on décide de porter plainte pour aller vite. L'assignation est délivrée le 30 janvier, et le 31 janvier, dans la nuit du 30 au 31 janvier, je reçois un premier message de menace de mort, avec des termes comme « Chartier, on va te crever, on va te jeter dans une fosse avec tes copains négros ». C'est voilà, j'avoue, c'est une première. J'étais un peu sidéré par la violence du vocabulaire, la violence des paroles, enfin, par l'imbécilité du message. Donc première menace, première plainte pour menace de mort. Donc on a eu trois autres, notamment une par téléphone. Deux par téléphone en fait, notamment une avec une alerte à la bombe dans la rédaction qui nous a forcé à évacuer, puis d'autres mails menaçants, voilà. Et ça s'est arrêté fin février suite à une manif de soutien qu'il y a eu, je pense qu'il y avait quand même 600 personnes pour défendre la liberté de la presse, l'info locale aussi. Nous on avait décidé de médiatiser ça, de pas se taire, et justement d'en parler par rapport aux élus qui avaient peut-être pas assez médiatisé la chose, enfin pour montrer déjà qu'on n'avait pas peur et que enfin c'était inadmissible et anormal ce genre de message. Enfin humainement c'est un peu dingue. Pas eu trop peur mais plutôt sidéré. Ouais, enfin, on se demande comment ces gens passent leur temps à haïr leur prochain, un peu chrétien comme réflexion, mais, le temps qu'ils passent dans leurs obsessions.
Cet épisode, Erwan Chartier a choisi de le raconter dans un livre, Callac de Bretagne ou les obsessions de l'extrême droite française, sorti en septembre dernier. L'affaire se poursuit d'ailleurs sur le terrain judiciaire. La plainte a été rejetée pour des questions de forme, mais Erwan Chartier a fait appel. Le rédacteur en chef l'affirme, il n'a rien changé à sa manière de travailler. Pas question pour lui de se laisser intimider.
Non, j'ai pas du tout peur. Bah non, au contraire, on est connus, nous, on est vraiment dans l'écosystème local. Les gens nous connaissent. S'ils ont envie de s'engueuler avec nous, ils savent comment faire, et vice-versa. On a une rédaction, la porte est ouverte, parce que je trouve que c'est important d'avoir des rédactions ouvertes, où les gens passent. Déjà, c'est super important pour avoir des infos. Voilà, on n'a pas changé nos habitudes et on reste ferme, au contraire. Ouais, notre boulot, c'est d'avoir de l'info locale. Bon, des fois, on touche des sujets beaucoup plus... d'autres sujets, quoi, qui se télescopent avec l'actu locale. Mais ça n'empêche pas d'avoir notre traitement, d'avoir nos infos, nos informateurs, de travailler sur cette info locale, nationale ou même universelle. Mais c'est en allant toujours au contact des gens qu'on l'a. Et voilà, ça, on continue.
Nicolas Legendre, Erwan Chartier, Morgane Large. L'investigation sur des sujets sensibles au niveau local ne peut-elle reposer que sur le courage et la persévérance de quelques-uns? Comment faciliter l'enquête au niveau local et protéger les journalistes qui s'y risquent?
Développer l'investigation au niveau local, donner les moyens aux journalistes d'enquêter au sein d'une vraie rédaction, il y a un média qui y croit. C'est Médiacité. Anthony Torzek est rédacteur en chef de Médiacité à Nantes.
Médiacité, qui est un site internet d'investigation en local, qui est basé donc sur quatre villes, Lille, Lyon, Toulouse et Nantes. Et nous avons à produire en moyenne 2 à 3 enquêtes par semaine, des enquêtes qui concernent les pouvoirs locaux, la plupart du temps des pouvoirs politiques, des enquêtes exclusives qui sont donc diffusées sur le site internet de Médiacité. Et j'ai, pour réaliser ces enquêtes, à peu près une douzaine de journalistes réguliers qui travaillent pour Médiacité Nantes.
Créer un média pour se donner enfin les moyens d'enquêter, parfois ça ne suffit pas. Pour changer la manière de travailler, d'interagir avec certains interlocuteurs, comme les collectivités territoriales, ça ne plaît pas à tout le monde.
Lorsque vous commencez à travailler sur un sujet, vous avez très souvent besoin d'informations officielles, entre guillemets, pour simplement crédibiliser, voire confirmer, voire vérifier l'information. Et parfois, eh bien, on nous donne pas cette information, qui pourtant est une information publique. Je vous donne l'exemple sur Nantes. Depuis que je suis revenu là en septembre, je me suis aperçu qu'il y a une collectivité locale qui nous censure complètement, c'est le Conseil régional des Pays de la Loire. À chaque demande que l'on fait du Conseil régional des Pays de la Loire, nous n'avons aucune réponse. Et pourtant, ils sont dans l'obligation de nous donner les réponses à nos questions sur des informations qui concernent des documents officiels publics, par exemple. Donc, si on veut vraiment les avoir, la seule possibilité de les avoir, c'est de faire appel, de saisir la CADA. La CADA, c'est la Commission d'accès aux documents administratifs, qui est une commission nationale qui se situe à Paris, qui a peu de moyens, de moins en moins, et qui a beaucoup de demandes, par contre. Et donc, il faut attendre 3-4 mois avant que la CADA statue sur le document que vous souhaitez avoir. Alors après, la CADA ne vous donne pas ce document. Elle dit seulement, oui, effectivement, c'est un document public que la collectivité doit vous remettre. Et après, vous devez revenir à la collectivité pour avoir ce document. Donc, vous imaginez qu'à chaque enquête que l'on fait avec la région des Pays de la Loire, pour donner cet exemple-là, on est obligé aujourd'hui d'attendre des mois pour avoir des documents. Et ça, c'est un frein considérable.
Pour se développer, Médiacité privilégie pour le moment les grandes métropoles françaises. Il n'existe pas encore d'antenne à Rennes.
Alors, d'abord, le choix des premières villes de Médiacité, ça a été de trouver des métropoles conséquentes. Pourquoi conséquentes ? Parce qu'il fallait que ce soit des métropoles dont les collectivités locales sont des collectivités qui brassent beaucoup d'argent avec beaucoup d'habitants. Parce que c'est là qu'il y a des sujets importants pour... en termes de fonds publics. Et puis, c'est là aussi, pour Médiacité, que l'on peut avoir un creuset de lecteurs, un potentiel de lecteurs important qui permettent d'assurer le modèle économique de Médiacité. Donc, on a cherché les métropoles les plus importantes de France.
Médiacité semble offrir aux journalistes un nouvel espace pour faire de l'investigation au niveau local. Mais son modèle économique reste fragile.
Le modèle, c'est-à-dire des enquêtes d'investigation en national, on l'a vu avec Mediapart, c'est un modèle qui tient la route, en tout cas pour Mediapart, hein, tant mieux pour eux, financièrement, ça, c'est un modèle économique qui marche. En local, nous, on est en devenir, hein, puisque ça fait 7 ans maintenant que Médiacité existe, au niveau national, 6 ans à Nantes. Au bout de 7 ans, on a réussi à avoir un équilibre financier seulement l'année dernière et qui reste extrêmement fragile, hein, qui dépendait aussi d'un fonds de soutien qu'on a eu, mais autrement, avec les abonnements, malheureusement, on n'est pas encore à l'équilibre.
Alors à quoi ressemblera le quotidien des journalistes de PQR demain ? Souhaitez-vous voir évoluer le journal que vous lisez ?
Demain, vous retrouverez Laurine Le Goff et Juliette Pirot-Berson pour explorer la piste des nouveaux médias indépendants.
Vous venez d'écouter Presse Locale, le poids de la plume, le 3e épisode du documentaire En quête de sens, réalisé par les étudiantes et étudiants du Master de journalisme de Sciences Po Rennes.
Dans cet épisode, vous avez pu entendre Versailles, de Tilassine, Kerlan, de Yann Tiersen, Parasite, de Nick Drake, un extrait du 6-9 de France Inter, du lundi 3 mai 2021, un extrait de l'émission Un dimanche en politique, diffusé sur France 3 Bretagne le 25 mai 2023, et un extrait d'un reportage vidéo disponible sur la chaîne YouTube du Télégramme, publié le 5 novembre 2022.